Chapitre 9. L'abandonné. Après une course folle à travers la France, un haletant et zigzagant voyage sous la direction de M. Alexandre, avec stations, détours, précautions variées, déguisements romanesques, la comtesse Lydie, simplement même la comtesse, accompagnée de son cornac et de sa femme de chambre, s'échouait un soir de septembre dans l'hôtel de la princesse de Lamballe à Quiberon. Des plafonds bas, infiltrés de moisissures, un baldaquin étouffant au-dessus d'un lit bateau mangé au vert, lui valait une nuit lourde sans sommeil. Puis, à l'angélus du matin, sa fenêtre à guillotine relevée sur un ciel brumeux, la petite place grise devant l'église romane au porche écrasé, des vieux bretons s'accostant dans le brouillard avec des grondements de phoques, lui laissaient une oppression et comme le pressentiment de l'ignoble comédie qu'on lui jouait. Cette impression sinistre dura toute la matinée jusqu'au retour de M. Alexandre, parti à la recherche de la famille Blanchard, sa famille, dont le souvenir, après 40 ans d'oubli, lui était revenu subitement un matin à Monte-Carlo quand il cherchait un refuge pour les amoureux traqués. Sur le coup de midi, il rentra rayonnant. Grands et petits dormaient dans le cimetière sablonneux de Quiberon, en face de la mer sauvage, dont la vague vient directement des Açores en trois élans. Tous les Blanchards, sauf un oncle, capitaine Longcourrier, toujours au loin, et sa femme qui vivait solitaire dans une petite maison jaune sur la plage de Port-Aliguin. Ma tante Maison Jaune, ainsi baptisée par Alexandre, consentait à louer son habitation toute meublée à Madame la Comtesse, à lui faire la cuisine ainsi qu'à Monsieur le Comte lorsqu'il serait là, même à fournir la carriole qui allait venir prendre, après le déjeuner, Madame Lydie, ses bagages et sa femme de chambre. Le tout aux conditions les plus modérées, sans compter l'agrément de se trouver en vigie pour guetter le bleu-blanc-rouge entrant dans le port les ailes éployées et se rangeant presque au ras de la maison. Le bourg de Quiberon, situé au milieu de la presqu'île, a deux ports. L'un très rapproché, Port Maria, sur la mer sauvage, l'autre sur le Morbihan, petite mer, Port Aliguin, qu'il faut aller chercher à une lieue à travers un réseau de petites ruelles, murs bas, calcinés par l'air salin, entourant des métairies, des vergers, vraies embuscades de bleus et de chouans. Quand Lydie arriva dans le tranquille petit pays, tout en longueur, avec son sémaphore de maçonnerie blanche au bout de la jetée, ses quais de factoreries lointaines bordées de maisons basses, de cabarets marins, de hangars, d'entrepôts, le brouillard s'était dissipé et, avec lui, l'oppression lugubre du matin. Une lumière douce dorait la mer, découpait les lignes sinueuses de l'horizon, Port Navalo, Saint-Gildas. Et le calme des flots contrastait avec la canonnade de la mer sauvage sur les brisants, entendue nuit et jour de l'autre côté de la presqu'île. Seule sur la plage, à l'entrée du port, éclatait la maison jaune et, plus voyante encore que l'ocre de ses murs, la coiffe aux grandes ailes de tante Blanchard qui, dès l'aube, fourbissait son carreau et son mobilier d'acajou dans l'attente de ses locataires. Véritable abri pour une nomade aventureuse, ce logis de plein pied et tout près des vagues, où partout au mur, sur les cheminées, sur les meubles, coquillages, coraux, plantes marines, magots de l'Inde et de la Chine par les voyages et cieux exotiques, où cette mer qu'elle aimait tant, et d'une fougue toujours repoussée, brisée sous les fenêtres, tremblotée dans tous les miroirs, avec les voiles de ses bateaux de pêche rentrant et sortant à des heures régulières en essaim de mouettes blanches. Mais quelle solitude! Et pour les goûts luxueux et vaniteux de la jeune femme, combien de privations! Le phare de la Ténuse, s'allumant chaque soir dans les tulles lilas du crépuscule, ne remplaçait pas le lustre de la salle à manger de Monte-Carlo à l'heure du souper, quand Lydie faisait son entrée au bras de Monsieur le Comte. De même, sur ce désert de sable, d'une mélancolie que l'histoire grandit et solennise des tragiques souvenirs de l'émigration, les quelques familles de baigneurs venus d'Auray, de Vannes et s'ébattant provincialement au soleil ne rappelaient que de très loin à la comtesse les admirateurs suédois, hongrois, grands et petits russiens, empressés autour de ses toilettes dans les féeriques jardins de la maison de jeu. Ici, cette étrangère, seule et trop belle, éloignée. Pour la juger, lui adresser la parole, on attendait d'avoir vu le comte, celui qui devait venir la rejoindre avec son yacht. Quand, nul ne savait. La marche des voiliers est si incertaine. Au début, elle ne s'ennuya pas trop. Le pays nouveau, l'installation, la peur de voir paraître le mari redouté, puis M. Alexandre qui, toujours logé hôtel Lamballe à Quiberon, venait la voir prendre ses ordres chaque matin. Long et raide, lorsqu'il se dressait sur le terre-plein de la maison jaune, devant la croisée du parloir où cousait avec tante Blanchard la femme de chambre lyonnaise, sa figure de vieux diable, toute rasée et hachée de pointillures sous un coquet chapeau de bain de mer, ses yeux de pierrot à la prunelle tournante jetaient l'effroi au cœur de la suppléante de Rosine. « Au moins, madame, en est-elle sûre ?» demandait la camériste. « Moi, quand il me regarde tout dans le fond et m'interroge comme ceci, « Agarite, êtes-vous discrète ?» Sans jamais un mot de plus, je tremble chaque fois d'entendre quelque confidence abominable. » Mais sa maîtresse la rassurait. « Je connais Alexandre depuis mon enfance. » Et, en effet, du temps qu'elle était à l'orphelinat de Soisy, il figurait déjà pour elle un des personnages de la Grand Route, de ce fantastique jeu de loi dont s'amusaient ses yeux de fillette. La marque de ses impressions initiales demeure en nous si profonde qu'à cette heure encore M. Alexandre lui imposait. Ah, si elle avait pu scruter cette petite tête féroce d'affranchie, au cou gonflé de venin et de haine contre l'enfant trouvé, la petite bohème devenue bourgeoise et madame. Si seulement lui était tombée entre les mains la lettre où le frontin macabre faisait à la duchesse le récit de son arrivée dans leur chambre de Monte-Carlo, « Le mari, sauvez-vous !» Pour se plaire à ces combinaisons scélérates, il fallait un ancien domestique, la cruauté spéciale aux métis aigris rancis dans 30 ans de bas office, dont il se vengeait délicieusement sur une dame, sur une blanche. Car M. Alexandre ne travaillait pas que pour l'argent. Il ne restait pas à Quiberon seulement pour régler les comptes, mais aussi pour la joie de guetter sa victime, de lui annoncer son lâchage, comme il disait avec élégance, de lui mettre ça dans la main. De jour en jour, cette heureuse minute approchait. Une fois pourtant, il eut une surprise désagréable, la crainte d'un dénouement imprévu. « Alexandre, regardez donc là-bas vers le sémaphore !» lui criait Lydie du rez-de-chaussée de la maison jaune, les mains en auvent au-dessus des yeux. « Si on ne dirait pas la voile de Charlexis !» Un rire cynique et muet grimaça sur la face glabre. Voilà qui m'étonnerait, grommela l'ancien larbin, regardant par complaisance vers la jetée et fixant bientôt avec inquiétude le navire signalé qui offrait, comme allure, voilure, dimension, une ressemblance parfaite avec le bleu-blanc-rouge. Étranger à coup sûr, puisqu'il avait à son bord le pilote dont la chaloupe suivait en remorque. Anglais, probablement, au dire de quelques vieux pêcheurs, gardiens de phares et douaniers, seuls habitants de Port-Aliguen à cette heure du jour, et qui s'étaient avancés jusqu'à la pointe de la Maison Jaune pour voir la goélette de plus près. À chaque bordée nouvelle, la ressemblance s'accentuait. Et même, un instant, sur le pont inondé de soleil et d'embrun, à côté de la roue du gouvernail, Lydie reconnaissait la carrure massive du brave Nuit et sa barbe rousse en collier. « C'est ça, c'est ma foi ça !» ronchonnait M. Alexandre anéanti, et plus bas, rien que pour sa cravate, « Fichu affaire !» Le moyen de combiner quelque chose de sérieux, de suivi, avec des écervelés comme ce petit Charlexis. Sûrement, c'était son béguin pour la comtesse qui repiquait. Ah, elle en avait de la chance, la gueuse! Et les patrons à Grosbourg, qu'est-ce qu'ils diraient? Et le bénéf sur la rupture, sur la naissance secrète, toute la pêche en eau trouble, par quoi la remplacerait-il? Projetant déjà des combinaisons nouvelles, M. Alexandre, afin d'être le premier à saluer son jeune maître, s'avançait jusqu'au sémaphore, où Lydie vint le rejoindre avec la robe et la coiffure que Charlet préférait, rose et blanche sous le double hâle du vent de mer et du soleil, comme un œillet sauvage, un œillet de la dune. Presque en même temps, la goélette portée par une forte brise terminait sa bordée à quelques mètres de la jetée et montrait en virant son nom écrit sur le panneau d'arrière en gros caractères « Amphitrite, Cardiff ». C'était un bateau de commerce sorti des mêmes chantiers que le bleu-blanc-rouge, mais supérieur de tonnage, chargé de tourteaux et sans rien du confort luxueux d'un yacht de plaisance. Aussi, je me disais, il arrive trop tôt, beaucoup trop tôt. Et l'affreux Alexandre, épiant le délicat visage de la jeune femme, se délectait à y suivre les tressauts nerveux de sa déception. 10 minutes après, l'Amphitrite entrait dans le petit port silencieux qu'elle emplissait de sa blanche carène ruisselante et du grincement de sa manœuvre, mêlée aux éclats d'une dispute entre le capitaine et le pilote. Les voix sonnaient contre les pierres du quai, mais personne ne savait l'anglais dans Port Alligen et l'explication n'eut jamais fini si Lydie, se souvenant des leçons de Sœur Martha l'Irlandaise, ne s'était offerte à servir d'interprète. Un curieux motif de tableau moderniste, cette Parisienne élégante, assise au milieu du pont sur un rouleau de cordage, dans l'odeur du goudron et des tourteaux. Devant elle, l'Anglais, un géant apoplectique et roux, se chamaillant avec le petit pilote breton, noir, simiesque et velu, tandis que les matelots, allant sur les vergues, regardent avec stupeur au-dessus d'eux ce quai désert, ces rares maisons basses, comme effarées de se trouver là. En effet, dans le fracas des flots et des rochers, le pilote Madec avait crié « Port Maria !» Le capitaine avait entendu « Port Lorient » et pris Madec à son bord, puisque c'est pour Lorient que l'Amphitrite était chargée. Le vent debout l'empêcha presque d'entrer à Port Maria. Le pilote venait abriter le navire de l'autre côté de la presqu'île, dans cette anse de Port Alligen qui ne ressemble guère à la rade spacieuse et bruyante où l'Anglais comptait aborder. Heureusement, la douce voix de l'interprète, sa jolie robe, ses yeux de saphir, mettaient vite tout le monde d'accord. Mais elle eut ensuite à se défendre des générosités du capitaine, qui, très impressionné par cette apparition shakespearienne, offrit successivement à la délicieuse Miranda descendue sur le pont de sa goélette un flacon de vieux porto, une lunette de marine, un pagne, un tomahawk, des babouches javanaises, un sabre à deux mains du Japon et finit par lui faire accepter un tout petit revolver américain, un bulldog que l'autoritaire long courrier gardait tout armé au fond de sa poche comme argument décisif contre les pilotes, gabelous et autres gens de loi patentés de la mer. Remis à peine de cette émotion, M. Alexandre dut en supporter une autre, encore plus secouante. En ouvrant son petit journal au café de l'hôtel, il y lut le suivant fait divers. La nuit du 27 au 28 septembre. Le yacht bleu-blanc-rouge au prince d'Omutz, abordé par un torpilleur espagnol dans les eaux des îles Baléares, a coulé à pic. Le prince seul et le cuisinier du bord, miraculeusement recueillis par une balancelle mahonnaise chargée d'oranges pour Marseille, viennent de débarquer dans cette ville. Qu'allait-il faire aux Baléares ? Ce fut la première parole de Lydie apprenant cette triste nouvelle qu'on lui apporta sans le moindre ménagement. « De Monaco à Quiberon, ce n'est pas la route indiquée ?»« Ah, vous savez, la voile, un coup de mistral ou de tramontane !» objectait le vieux larbin avec un émoi blagueur de toutes ses petites rides. Et de s'offrir aussitôt pour aller aux renseignements du côté de Grosbourg, où le jeune prince ne manquerait pas de venir se ravitailler. Prêt d'ailleurs à tout ce que voudrait Madame la Comtesse, aux ordres de qui le fils de ses maîtres l'avait mis. Et de basses protestations et des tortillements d'échines, tous les trucs et détours de l'office, toutes les grimaces de son ancien métier. « C'est cela, allez voir !» disait Lydie, toujours confiante, mais plus que jamais rêveuse. Dans les ténèbres morales où s'agitent la plupart des êtres, certains faits les illuminent brusquement, montrant jusqu'au fond le noir des abîmes. Le sinistre du petit journal apportait à la jeune femme une de ces révélations. Charlexie mort, que serait-elle devenue ? Incapable d'une pensée de lucre, la perspective de la misère ne l'effrayait pas. D'où venait donc la terreur subite dont cette supposition de mort l'avait glacée ? Seulement de s'être sentie presque aussi indifférente à la disparition de son amant qu'à celle de n'importe quel visage connu. Ne l'aimait-elle donc pas ? Eh bien, non. Jusqu'ici, elle doutait, à présent, la preuve était faite. Elle l'avait suivi par vanité, ennui et lassitude, besoin d'horizons nouveaux et de jours imprévus. Mais au plus intime de leurs caresses, quelque chose les dédoublait, les séparait toujours, quelque chose de froid et d'impénétrable qui l'enveloppait, lui, d'une fine côte de maille à la dure défense, l'abritant de toutes les blessures qu'il faisait, rendant inégal et lâche ce duel sans témoin et sans armes qu'est l'amour. Deux ou trois fois, la peur l'avait prise à son côté, à certains de ses sourires, à ces paroles de son père qui la hantaient. « C'est un monstre ! Je vous dis que c'est un monstre !» Et l'image désespérée du général, ses yeux ardents et braves, si différents de ceux de Charlexie, achevait de diminuer dans le cœur de la jeune femme l'amant pour qui elle avait tout quitté. Ah, si c'eût été à refaire ! Quand la vie s'ouvrait, droite et simple, par ce mariage inespéré avec un brave homme, pourquoi se jeter dans la traverse, follement, sans passion, sans joie ? Maintenant, où allait-elle ? Comment finirait tout cela ? Elle y songeait, frissonnante, incertaine, dans la brume du soir qui se levait, le chuchotis de l'eau flaquant contre les pierres de la jetée. Des voiles qui rentraient, grandis par le brouillard, glissaient en fantômes. Soudain, au bout de la digue obscurcie, une flamme étincela, haute et claire, la lampe du sémaphore. En même temps, Lydie sentit en elle une secousse, un sursaut inexpliqué d'abord, mais qui, renouvelé, compris, l'inonda d'une joie ineffable. L'enfant, leur enfant qu'elle oubliait et qui se révélait pour la première fois. Ce fut un changement magique. La vie lui apparut avec un but, une lumière protectrice. Le père lui-même s'humanisa dans sa pensée, lui sembla moins obscur, moins loin. Des chants, des cris remplissaient le port. Les avirons bruyants roulaient dans les barques, et le long du quai, par les portes basses des maisons, où luisaient des feux rouges à travers la brume, on entendait craquer et pétiller le bois vert avec le rire des tout-petits autour du foyer. Une semaine passa sans nouvelles. Lydie ne s'alarmait pas, pensant bien que le prince, rentré à Grosbourg, aurait du mal à s'échapper une seconde fois. Chaque matin, les baigneurs devenaient plus rares sur la plage, la maison jaune plus seule. Malgré l'exceptionnelle douceur de la saison, on sentait à la montée des brumes, autant de vieilles dorures que prenait la lumière à certaines heures, comme aux accents plaintifs et longs de la brise, à la frénésie du vol des goélands, que l'été touchait à sa fin. Et de l'autre côté de la presqu'île, les mugissements de la mer sauvage redoublaient, chaque vague écroulée sur les roches avec le vacarme d'une batterie.
« Si vous entendiez ça l'hiver, madame, c'est affreux, paraît-il »
disait à Lydie sa servante Agarite, qui, tout le jour à coudre avec la tante Maison Jaune, savait à fond le pays et frissonnait à l'idée d'un hivernage possible dans cette solitude.
« Ce qu'ils appellent le trou du souffleur, ce rocher qui siffle et qui ronfle derrière Port Maria, du bruit sourd qui sort de là quand vient novembre, les gens ne peuvent plus dormir. De ce côté-ci, la mer n'est point si farouche, mais les hommes se chargent d'être méchants pour elle. »
Et la Lyonnaise contait à sa maîtresse les batailles livrées dans Port Alligan entre les Sardiniers et les forbans de Concarneau venant pêcher en ces mêmes parages. Par ces ciels bas de l'hiver, chargés de brouillard et d'interminables pluies de côte, quand les lampes restent allumées nuit et jour, que le gros temps empêche les barques de sortir, il fallait voir, dans ce tout petit port noyé d'embrun, 200, 300 marins, hurlants et saouls, se ruaient à l'assaut des auberges Le Buez ou Le Kélec, qu'ils leur refusaient du boire, et, chassés à coups de barre d'anspé ou de potée d'eau bouillante, tournaient leur rage contre eux-mêmes, se crochaient, s'entretuaient, avec tant de furie que, de la terrasse de Le Buez, ils roulaient sur le quai plein d'ordures, et du quai dans les flots du bassin, par grappes sans se lâcher.
« Rassurez-vous, ma fille, nous serons partis avant de voir ces horreurs !»
répondait Lydie, qui tenait à sa femme de chambre, ramassée sur un quai de Lyon, bien veule, bien niaise, mais le seul visage où elle pût lire autre chose que de la méfiance ou de l'antipathie. Monsieur Alexandre, avant son départ, avait glissé dans l'oreille de tante Blanchard que sa locataire n'était comtesse que de la main gauche, et de Port-Aléguen à Quiberon, pas un caillou du chemin qui n'eût ramassé la calomnie pour la repousser plus sale à la pierre voisine. De là cette malveillance que l'abandonnée sentait se lever devant elle, craquer sous chacun de ses pas. Son orgueil en souffrait, mais bien peu, maintenant que l'enfant était là, qu'il prenait plus de place dans sa vie. D'ailleurs, elle ne sortait guère. Un piano, oublié à Plohermel par des Écossais fantaisistes et qu'elle avait fait venir, la retenait à la maison, éparpillant, selon le vent, la fantaisie de ses arpèges dans le port silencieux et sonore, ou les envoyant vers la plage, de jour en jour plus déserte et plus large. Sur la vaste étendue de sable, où tombèrent les chouans de Sombreuil, restaient deux ou trois cabines de baigneurs, des enragés attendant l'arrivée prochaine de la flotte et ses essais de combat de nuit. Pour éviter les regards de malice et d'envie, les sourires haineux qu'elle retrouvait le soir en éclaboussures de boue dans le bas de sa robe, Lydie ne venait jamais de ce côté. La jetée lui faisait sa promenade préférée, depuis surtout qu'elle n'avait plus à guetter le yacht, à scruter l'horizon, avec l'espoir toujours déçu et si énervant d'y voir monter une voile de goélette. Pourtant, que Charles-Exy n'eût pas écrit ou seulement Alexandre, voilà ce qu'elle commençait à trouver bizarre. Un dimanche, enfin, le premier dimanche d'octobre, jour des régates et fête à Quiberon, une lettre arriva, non pas celle qu'elle attendait. Pour la première fois, ce jour-là, Lydie avait pu passer une heure en mer sans ces horribles contractures d'estomac qui lui rendaient toute traversée impossible. Il est vrai que le bateau ne bougeait pas. Le bateau pilote servant de but d'arrivée pour les courses à voile et qu'il faisait en plus un temps de vierge, bleu et doux, le Morbihan sans une ride, immobile et figé, ne vivant que par le scintillement d'un soleil d'été égaré dans l'arrière-saison. « Venez avec moi, madame la comtesse !» lui avait dit le pilote resté son ami depuis l'arbitrage de l'amphitrite. « Je vous réponds que vous serez mieux pour voir sur mon bateau, même que si vous étiez sur l'estrade du sous-préfet et de monsieur le commissaire de marine. » Et depuis plus d'une heure, ils attendaient, au large de l'immense baie, très loin, perdus entre ciel et mer, dans une atmosphère cristalline, une douceur, une chaleur réverbérée, qui tenait les êtres, muets, en extase comme s'ils planaient. Jamais Lydie ne s'était sentie si près du ciel. Oh, serrer une main aimée dans cette paix divine, cette trêve bercée !«
Mais on ne voit rien !» murmurait Agarite.
Le plus curieux, c'est que, trop distant du rivage pour percevoir sa mince ligne d'ombre, la table lumineuse et sonore de l'eau leur apportait par bond, par bouffée, tous les bruits de la fête au Port-Aléguen, des cloches, des rumeurs, un fredon de biniou, des éclats de tambours et de fanfares. On ne voyait rien et tout s'entendait. À l'avant du bateau, quelqu'un dit tout bas « Ça a l'air de nous tomber du ciel !» Soudainement retentit le signal d'une boîte à feu, suivi d'une clameur de foule, où fusait le timbre suraigu des voix d'enfants. Puis un silence. « Les voilà !» cria le pilote en se levant. Arrivaient les bateaux de course en longue file, ceux de la tête presque bord à bord. Où prenaient-ils l'air qui gonflait leurs voiles, tendait leurs agrès, faisait craquer leurs musculeuses membrures, donnait à leur élan cette haleine puissante de souffle et de forge qu'on entendait courir devant eux. Leurs hautes ailes d'oiseaux rocs, blanches, rousses, pas plutôt dressées sur le bleu, ils étaient là, tournant le bateau-pilote qui les saluait de « Hourra !»
et le rasant tellement près que, d'un heure, son bouteur emporté vola en 1000 pièces et que le bateau pirouetta avec des craquements, une mêlée de cordages, des piaillés de femmes, des jurons de matelots. La durée d'un éclair, Lydie voyait virer et fuir le Concarneau qui avait fait le coup, vaisseau fantôme à la voile brune, manœuvré par une équipe de forbans, blême comme l'eau-de-vie de mar qui les saturait, les yeux fous, les cheveux en plaques ruisselantes sur des faces de noyés. L'Américain, qui suivait, un yacht de plaisance, gris d'argent et coquet, lui fit battre le cœur, tant son équipage ressemblait au matelot si correct du brave Nuit. Et quand le gentleman qui tenait la barre, un long New-Yorkais à lunettes, moins élégant, certes, que Charles Exy, la salua dans le virage, ses beaux yeux de perles se mouillèrent. Ce fut fini pour elle du plaisir de la course. Forbans et sardiniers, pêcheurs de noirmoutiers et de l'île de Watt, émergés, voltaient, filaient à tire-d'aile. Elle les regardait d'un œil vide, comme un tournoiement de mouettes ou d'hirondelles de rochers, en songeant à l'absent, à celui qui l'avait rendu mère. Car son amour, son triste simulacre d'amour, n'était guère plus que cela. Le sentiment de la responsabilité et les premières tendresses maternelles s'agitant dans leurs sources profondes. Rentrée chez elle, rien ne put la distraire de cette chère pensée. Les quais de Port-Alligen, grouillant d'un peuple pittoresque, les gigues de matelots, comiques et solennelles, le commissaire de marine galonné comme un général péruvien, assis à une petite table devant l'auberge Le Quélec pour distribuer les médailles des régates, puis les concours de biniou, les courses à la nage dans le bassin du port, derrière des canards et des cochons, elle ne voulut rien voir, laissa sa femme de chambre courir seule. Celle-ci, pourtant, dans la soirée, s'étant fait prêter par Madame Blanchard une grosse lanterne de bateau, bien utile dans les petites routes entrecroisées, décida sa maîtresse à l'accompagner jusqu'au bourg pour voir les danses. La bise s'était levée, piquante sous un ciel scintillant d'étoiles. Mais dès l'entrée du pays, une chaleur venait de bêtes et d'hommes, en tas par des ruelles étroites au sol feutré de fumier, et sur la place du bourg, qu'entourait un cercle inextricable de voitures dételées. C'est là que l'on dansait, et rien qu'au son des bouches, parce que les bignous étaient trop sous, répondait à Lydie une candide fleur de lin perdue sous une grande coiffe blanche. La foule se pressait autour de deux ou trois rondes, dont la plus belle virait sous les fenêtres de la princesse de Lamballe. Un garçon d'hôtel, ayant reconnu Agarite, les fit parvenir non sans peine au premier rang des spectateurs, la grosse lanterne posée à terre devant elle, parmi le double cercle de quinquets et de lampions, qui faisait à la danse une rampe rougeâtre et fumeuse. La place s'éclairait de quelques lumières semblables, et aussi des falots de toutes les carrioles, charrettes, charabancs, berlines, diligences, qui avaient amené les métairies, hameaux, domaines du voisinage, et dressé dans la pénombre une irrégulière et mobile estrade circulaire, où des silhouettes s'empilaient en gesticulant. « J'aime bien les cotillons rouges, j'aime mieux les cotillons bleus !» Chantés par des voix rauques, grêles, de pêcheurs, de sardinières, avec la talonnade de gros souliers retombant en mesure, des rondes de pays menaient le branle, et de ce tourbillon bigarré blanc et noir de draps rudes, de laine échauffée, de ses rires, de ses souffles montait une buée lourde, mêlée à la poussière du sol piétiné, à la fumée des pipes et des lampions. Parfois, un pan lumineux du décor se détachait, éteignait tout un coin de la fête. Une carriole, une diligence qui partait, emportant ses lanternes, ses chansons dont les éclats disparaissaient dans l'entrecroisement des ruelles. « Les cotillons rouges, les cotillons bleus, ce sont les bleus que j'aime le mieux !» Peu à peu, la place redevenait presque noire. Les branles, éclaircies, fondues en un seul, ne se guidaient plus que par les lampions à bout de mèche et les étoiles que l'on commençait à entrevoir, comme on entendait la bramée de la mer sauvage tout à coup rapprochée. Elle faisait la basse d'une ronde farouche que les bouches venaient d'attaquer à temps précipité. « Fendons le bois, le roi, chauffons le four, l'amour !» Les jupes lourdes claquaient, Les voix se bousculaient à perdre haleine. Dans l'angle sombre de la place, le vent chanté tournait seul. « Rentrons !» murmura Lydie, reprise au cœur de l'angoisse singulière qu'il avait étreinte le matin de l'arrivée à cette fenêtre d'hôtel là-haut. Agarit ramassa la lanterne. Elles s'en revinrent par ces petits chemins de chouans où des ombres rôdeuses battaient les murs, où des ivresses lourdes croulaient dans les fossés, s'endormaient entre un hoquet et un refrain de ronde. « Chauffons le four, l'amour, dormez la belle, il n'est point jour !» Les chiens des métairies aboyaient sur leur passage, leur faisaient presser le pas, baisser la voix. « Regardez donc, madame, ces lumières, là-bas, sur la mer, entre les branches du sorbier, on dirait la flotte !» Oh, cette flotte, Agarit en rêvait et tout qui beront avec elle. L'hôtel Lamballe était plein de voyageurs, du monde de Port-Navalo, de Vannes, de Nantes, même des gens de Paris venus pour la voir assister aux exercices. Le garçon, ami d'Agarit, lui avait parlé d'une dame parisienne, accompagnée de sa cousine, petite boulotte assez jolie. « Vous a-t-on dit comment s'appelait cette dame ?» demandait Lydie, que troublait une étrange coïncidence. N'avait-elle pas cru reconnaître, pendant les rondes, une silhouette de femme appuyée au balcon de l'hôtel, l'air hautain, la tête nue, tout le portrait de sa belle-mère ? Mais Agarit ne savait pas les noms. Puis la présence à Quiberon de Madame Fénigan s'expliquait si peu. Évidemment, une de ces apparitions de rêve éveillé, comme on évoque la pensée longtemps fixée au même point. Tout le jour, Lydie avait interrogé le passé, quoi d'étonnant qu'il lui eût répondu par un de ses fantômes. Un peu l'hallucination de la Lyonnaise, qui, à force d'entendre parler de la flotte, voyait luire ses fanaux à tous les coins de l'horizon. Et pourtant, arrivée dans Port-Alighen, avec la sombre immensité de l'océan sous leurs yeux, elle n'y apercevait pas d'autre feu que celui du sémaphore, et plus près, une lumière qui les attendait au rez-de-chaussée de la Maison Jaune, l'unique habitation de la plage. Sous cette lampe, une lettre bien en vue, que Lydie ouvrit tout de suite, et qui lui expliqua enfin l'affreuse angoisse de ses premières heures dans ce pays, le malaise étrange dont elle venait d'être reprise le soir même, comme un avertissement que son mauvais destin devait la frapper ici, sur cette plage, et non ailleurs. Oh, l'intuition de la femme, prescience, clairvoyance subtile, au bout de tous ses nerfs, qu'est-ce que notre finesse d'observation à côté de cela ? Vaguement, elle déchiffra l'épître de M. Alexandre. C'était long, c'était bête et menteur d'un bout à l'autre, d'une veule écriture de larbin que son regard balayait avec épouvante en retenant certains mots au passage. Dû faire sa soumission, volontariat, dragon, argent chez le notaire, réversible sur l'enfant. Le résumé de la lettre. C'est fini, il vous lâche. Préparez votre note, je vais venir la régler et vous écris d'avance afin d'éviter tout débat. Elle le savait bien que cela finirait, et ce qu'elle ferait au bout de cette impasse, elle l'avait décidé aussi. Seulement, pourquoi si vite? Pourquoi si laidement? Ne pas même lui écrire un mot, l'adieu tremblait des lettres de rupture. Laisser ce soin à un domestique. Voilà qui dépassait toute infamie. Peu à peu, un fait s'éclairant par un autre, elle découvrait la farce atroce qu'on lui jouait depuis Monte-Carlo, leur départ en tragédie, sa fuite ridicule à travers la France et cette méchanceté de la conduire si loin, de la faire attendre si longtemps pour lui cracher cette injure à la face. Oh, Charlet, c'est tout cela que signifiait votre rire indéchiffrable et ces yeux de pierre froide dont elle avait tant peur. Un beau monstre, comme disait le père. Un monstre incapable d'aimer et qui, d'instinct, repoussait toute intimité et toute tendresse. Ils finissaient bien ainsi qu'ils devaient finir leur ignoble roman sans amour. Et ces gens de Grosbourg avec leur notaire, pour qui la prenaient-ils donc ? Comment ? Le général, lui aussi ? Oh, cela l'outrageait plus que tout, l'idée que ce fier, cet intrépide dont la passion désespérée l'avait quelquefois ému, pouvait la croire une âme de trafic et de lucre. Ils allaient bien voir le cas qu'elle faisait de leur argent et de tout. Réversible sur l'enfant. Oui, sans doute, l'enfant. Dans la ferme résolution prise par elle dès le premier jour de ne pas survivre à sa folie, elle n'avait pas prévu cette ironie, 8 ans de stérilité dans le mariage pour aboutir à cette maternité de rencontre. Mais cet enfant, comment l'élèverait-elle? Pas de père, pas de nom, pas même celui d'une mère qui n'en avait jamais eu. La misère noire et du sang de prince dans les veines. Que deviendrait-il, déclassé, délaissé? Ne valait-il pas mieux 100 fois l'emporter dans la mort avec elle? La mort, certainement. Mais quelle mort? S'en aller vite, s'évader de sa triste existence, mais par quelle porte? La mère était là, tout près, au bas des roches. Ouvrir doucement la fenêtre, enjamber l'appui, 2 pas à faire. Le noir de la nuit et de l'eau l'effrayaient. Il faudrait se chausser, se vêtir ou sortir à 2 minutes. Ah, voilà! Son regard, cherchant tout autour dans la chambre, venait de découvrir le petit revolver de l'anglais, reluisant sur la cheminée. Droite devant la glace, elle le mania un instant avec des doigts experts, songeant à une foule d'êtres et de choses, déjà le défilé de la dernière heure dans ses yeux hagards. Et comme elle écartait très bas les dentelles de sa chemise pour viser à la bonne place, le sentiment de sa beauté l'arrêta, presque un regret de meurtrir ses blancheurs nacrées où brillait l'or d'une petite médaille. Le temps d'une prière mentale à la dame de Fourvière, le doigt sur la gâchette, elle allait tirer. Des coups rapides contre sa cloison et la voix d'Agarite la retenait encore. « Madame, madame ! Oh, que c'est beau, toutes ces lumières vertes, bleues, jaunes, rouges, qui dansent sur la mer. La voilà, c'est la flotte, quand je vous le disais !» Machinalement, elle tourna la tête vers la fenêtre, dont les vitres vibrèrent, secouées par une violente canonnade, où se perdit l'aboiement court et féroce du petit bouledogue. Comme Lydie tombait, un de ces longs feux électriques promenait des vaisseaux sur la côte, inonda la chambre jusqu'au fond de son flamboiement bleuâtre. Elle le reçut en pleine figure et put croire que c'était l'éternité qui s'ouvrait. Une fois franchie l'angoisse du mauvais passage, c'est peut-être ainsi quand on meurt.